Jeanette Monroe arriva le lendemain. Fran avait passé la nuit seule dans la maison vide, refusant l'offre du shérif de dormir dans la salle d'attente au poste de police. Bizarrement, elle ne fit aucun cauchemar. Elle resta étendue sur le dos, à fixer le plafond, tandis que la voix de sa sœur bourdonnait très loin au fond de sa tête. Mais le fantôme parlait trop bas, et le sens de ses paroles demeurait inintelligible. « Je n'éprouve rien, » se dit Fran. « Je suis engourdi. » Ce fut Man qui la réveilla. L'adolescente comprit dès les premiers mots que son père était mort. Emplie d'une stupéfaction grandissante, elle dévisagea sa mère, cette quadragénaire affaissée, privée d'armature, qu'elle ne reconnaissait pas. Tout à coup, Jeanette Monroe était devenue quelqu'un d'autre. Une femme très différente de celle que Fran s'était toujours plu à imaginer dans le secret de ses révoltes. Une femme entre deux âges qui se tordait les mains comme une actrice de soap-opéra et répétait « Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'allons-nous devenir? Et le magasin ?» Fran, irritée par ses lamentations, se redressa. Elle réalisa qu'elle avait dormi avec ses vêtements. « Je ne méritais pas ça, » souffla sa mère. « Pas maintenant. Je ne suis plus assez jeune pour recommencer à zéro. « Mais c'est une chance pour nous, » murmura Fran. « Tu n'étais pas heureuse avec lui. Il était mauvais. Elle avait failli en dire plus. Elle ravala ses mots in extremis. » Jeanette écarquilla les yeux, comme si elle venait de recevoir un coup de poing à l'estomac. « Tu ne peux pas dire ça, » haleta-t-elle, « surtout maintenant qu'il est mort. C'est comme s'il avait tous les droits. Tu comprends? L'ardoise est effacée. On n'a plus le droit de le critiquer. Ce serait contraire à la morale. » Elle récitait. De temps à autre, elle jetait de petits coups d'œil par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être écoutée par quelqu'un du village. « Ton père, » soupira Jeanette, « c'était quelqu'un. Tu n'as jamais fait aucun effort pour le comprendre. Tu ne pensais qu'à toi, à tes petits bobos. Tu le traitais de haut. Souvent, j'avais honte pour toi. » Fran demeurait pétrifiée. Elle avait soudain l'impression de côtoyer une inconnue. « Mais tu étais malheureuse, » répéta-t-elle, s'accrochant à cette certitude si ancienne qu'elle lui semblait gravée dans le marbre, telles les tables de la loi. Jeanette s'approcha d'elle et tendit la main pour lui caresser la tête. « Ma pauvre petite, » fit-elle avec lassitude, « tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu passes ton temps à te raconter des histoires. Et le pire, c'est que tu finis par y croire. Tu as toujours été un peu folle. J'aurais dû te montrer un docteur quand tu étais petite, mais j'avais peur que ça ne vexe ton père. Il n'aurait pas supporté d'avoir une fille anormale. » Sa voix s'étrangla, mais elle ne pleura pas. Fran luttait contre la migraine qui montait en elle. Un bourdonnement de plus en plus puissant lui emplissait les oreilles, la rendant presque sourde. « J'aurais dû te placer dans un hôpital quand tu m'as raconté cette histoire invraisemblable à propos de ta petite sœur, » chuchota Jeanette Monroe. « C'était un signe, un signe. » Elle se détourna. « Tu ne peux pas comprendre, » fit-elle. « C'est comme à l'école. Tu étais trop distraite. Tu ne te rendais compte de rien. Tu vivais à nos côtés sans nous voir. Finalement, tu as choisi d'être une étrangère au milieu des tiens. Ton père en a souffert. Il ne savait pas le dire parce que les hommes ne peuvent pas exprimer ces choses-là. Ils ne parlent pas la même langue que nous. » Le shérif se présenta pour emmener Madame Monroe reconnaître le corps du défunt. Jeanette insista pour que sa fille l'accompagne. Devant la réticence des adjoints, elle précisa que la petite attendrait à la porte. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula en silence. Franny, les yeux secs, s'efforçait de pleurer sans y parvenir. Jeanette s'appliquait à rester digne. Elle manifestait sa douleur en triturant un petit mouchoir de dentelle prélevé sur les soldes du magasin. Franny n'eut pas le droit de voir le corps. Assise sur un banc dans le couloir, elle attendit en compagnie d'un infirmier qui s'ennuyait en mâchonnant un mégot éteint. Absorbée par l'examen minutieux du carrelage, elle ne lui adressa pas la parole. En relevant la tête, elle vit un homme d'une cinquantaine d'années, strictement vêtu, qui la contemplait. Il semblait en deuil, mais nulle trace de chagrin ne déformait son visage impassible. Lui aussi attendait. Quand Jeannette réapparut, il eut un mouvement instinctif vers elle. Son amant, songea Franny stupéfaite, avant de réaliser qu'elle avait devant elle le représentant local des pompes funèbres. Déjà sa mère disait « Oui, oui », approuvant tout d'une voix lasse. Puis « Ce sera très bien, et encore, je vous fais confiance. » Le lendemain, le corps fut ramené à la maison. Prévenu par on ne sait qui, 8 femmes vêtues de noir attendaient déjà devant la grille de la villa. Elles s'écartèrent pour laisser passer le cercueil, puis, sans gêne aucune, entrèrent dans la maison du mort. Elles s'approprièrent les lieux comme si elles en connaissaient le moindre recoin. « Nous venons pour la veillée funèbre, » décréta la plus vieille. Georges était un enfant du pays. Jeannette capitula. « Oui, merci, » lâcha-t-elle. Les chaises avaient été disposées en cercle autour du cercueil. Les vieilles se pressèrent d'occuper la circonférence de cette étrange arène. La veuve et l'orpheline prirent place au milieu d'elles. « Qu'allons-nous devenir ?» gémit Jeannette en saisissant la main de sa fille. « Maintenant que ton père n'est plus là, aurons-nous la volonté de continuer ? C'est lui qui nous tenait à bout de bras, n'est-ce pas ? Il nous infusait sa force. Les hommes servent à ça. Ils ont bien des défauts, mais l'énergie, ça, il n'en manque pas. Je ne sais pas si j'aurai la force de continuer. » Les vieilles supportèrent ce monologue un quart d'heure, puis la plus âgée profita d'une absence momentanée de Franny pour se lever et apostropher Jeannette à mi-voix. « Ma fille, grinça-t-elle, cessez de vous plaindre et pensez à lui. Vous avez toute la vie pour vous consoler. Lui, il n'a que très peu de temps pour réussir son passage. Vous troublez le pouvoir du cercle que nous formons, et vos pleurs détruisent nos prières. Nous ne sommes pas ici pour vous, mais pour lui. C'était un homme troublé, au passé difficile. Aussi, je ne vous le dirai qu'une fois. Aidez-le ou sortez. » Abasourdie, Jeannette quitta la pièce. Elle revint 10 minutes plus tard, calmée, sans toutefois oser reprendre sa place initiale. S'emparant d'une chaise, elle s'installa à l'écart, dans une attitude de bouderie offensée. Franny, quant à elle, ne fut pas autorisée à participer à la veillée. « Tu n'as pas connu d'homme, » lui glissa l'une des organisatrices. « Tu ne peux pas rester jusqu'à l'aube. Tu n'aurais pas la force. Laisse ta place à celles qui sont en mesure d'aider celui qui part. » « C'est faux, » protesta Fran. « Je ne suis plus vierge. » La vieille hocha la tête sans dissimuler son agacement. « Mais si, qu'est-ce que tu racontes ? » grogna-t-elle. « Tu es pucelle, ça se voit au premier coup d'œil. Va-t'en, tu n'es qu'une gosse. Ici, c'est l'affaire de vraies femmes. » Franny n'eut pas le temps de se rebeller. La main d'une pleureuse se referma sur son poignet pour l'entraîner hors de la pièce. Le lendemain, Franny assista à l'enterrement dans un état comateux qui alimenta la gourmandise des commères. « Pauvre petite, chuchotait-on, elle est choquée. Déjà qu'elle n'avait pas toute sa tête à ce qu'on dit. Elle ne va pas s'en remettre, susurrait-on sur son passage. Ces gosses des villes, ça n'a pas le cuir assez dur. » À travers le flot de paroles fredonnées à bouche mi-close, Franny cherchait à identifier le timbre rocailleux de la chasame. Ses efforts furent inutiles. La sorcière de Malastru n'était pas venue. Après l'inhumation, Fran et sa mère regagnèrent la maison. Jeannette parcourait les pièces d'une démarche de somnambule. Elle fumait cigarette sur cigarette sans s'occuper d'éparpiller ses cendres au petit bonheur. Succombant sous les lamentations mornes, Franny l'accompagnait dans ce pèlerinage insolite. « Tu te rends compte ?» récitait Jeannette. « Dire qu'il a vécu ici lorsqu'il avait ton âge ?» J'essaie de me le représenter, petit garçon, mais c'est dur. » Ses sanglots étouffés rendirent pendant quelques secondes ses paroles inaudibles. Arrivée dans le garage, Jeannette se reprit. Sa voix s'éclaircit et s'exalta. Il disparaît au moment où une carrière politique s'ouvrait à lui. Ton père aurait fait de grandes choses pour ses administrés. Il avait des projets pour garder les jeunes dans la région. » Elle se tut un instant avant de continuer. « Tu vois, même ici, malgré les soucis que tu lui causais, il travaillait à ses discours électoraux. La persévérance. Ton père avait cette qualité. C'est un don très rare, tu sais. Regarde ses feuilles blanches. Elle n'attendait plus que son écriture si élégante. Je lui avais acheté un beau stylo plume, un vrai, comme on en faisait jadis. Un de ceux qu'on remplit dans une bouteille. Il n'en aurait pas voulu d'autre. Je lui disais, tu t'en serviras pour signer des traités de paix lorsque tu seras à la Maison-Blanche. » Franny comprit que sa mère ne tolérerait aucune critique. Aussi se contenta-t-elle de répondre mécaniquement par l'affirmative. À la fin, toutefois, quand elle sentit que l'exaltation de Jeannette retombait, elle se hasarda à glisser. « Et le magasin, maman ? Il faudrait rentrer, non ?»« Pas encore, s'emporta Jeannette. Qu'as-tu dans la tête ? Je ne peux pas quitter ton père aussi vite, ni tous ces braves gens qui sont encore dans la peine. C'était un enfant du pays, il l'aimait. Ils auront du mal à s'en remettre. » Franny aurait voulu pouvoir crier la vérité, lui faire comprendre que personne ne se souciait du défunt, mais elle resta muette, et Jeannette décida de remettre leur départ. « De toute façon, continua-t-elle, je ne saurais pas faire face aux fournisseurs. Ton père disait que je ne savais pas me débrouiller, il avait raison. Les produits de beauté, c'était déjà difficile. Mais là, les conserves, les clous, le matériel de bricolage, non, j'en serai incapable. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera la faillite. Nous serons jetés à la rue, j'irai faire des ménages, toi tu seras obligé de te placer quelque part. C'était ton père qui nous permettait de vivre dans le luxe. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est comme si nous étions mortes, nous aussi. » « Mais enfin, protesta Franny, tout n'est pas perdu, tu peux reprendre l'affaire. » « Pauvre sotte, trancha Jeannette. Tu ne penses tout de même pas que je pourrais remplacer un homme tel que lui, moi, une femme ?» Elle s'interrompit, parut réfléchir intensément, puis ajouta. « Il faudra mettre une de ces photos dans chaque pièce. Pas dans ma chambre, » haleta l'adolescente. Mais Jeannette ne l'écoutait pas. « Il faut nous préparer à notre nouvelle existence, » murmura-t-elle d'un ton résigné. Franny s'enfuit au fond du jardin. Elle traversa la haie et se retrouva sur le sentier qui menait à l'ancien lavoir. Elle marcha jusqu'au bâtiment délabré et s'assit au bord du plan d'eau. La maison lui faisait horreur. Elle se décida à rentrer quand la nuit noya les contours de la villa. Pendant son absence, Jeannette avait entrepris le grand nettoyage de la demeure et les traces de la veillée mortuaire avaient disparu. Fran en fut soulagé. Pendant une minute, elle eut l'illusion que tout n'avait été qu'un rêve. Un sanglot dans la pièce voisine vint rompre ce bref instant de quiétude. Les pleurs de Jeannette n'arrivaient pourtant pas à l'émouvoir. Franny se sentait bizarre. Depuis l'accident des guêpes, elle avait l'impression d'être devenue la pensionnaire d'un étrange théâtre. De temps à autre, elle montait sur la scène pour jouer un rôle qui tenait plus de la figuration que de l'art dramatique. Cette maigre participation au spectacle ne l'empêchait pas de critiquer le jeu des autres acteurs. La mère, surtout, jouait particulièrement faux. Franny mangea un peu de pain et de fromage, puis alla dire bonsoir à Jeannette qui s'était couchée, un flacon d'eau-de-vie sur la table de chevet. Là, elle dut de nouveau affronter un concert de lamentations à tonnes. Maintenant que son ombre ne nous protège plus, il nous arrivera malheur, prophétisa sa mère d'une voix qui sentait l'alcool de poire. Je ne peux pas vivre sans homme. Les femmes de ma génération n'en sont pas capables. Il te frappait, fit remarquer Fran en s'asseyant au pied du lit. Mais non, éluda Jeannette. Ce n'était pas sérieux, des bagarres d'amoureux. Des fois, je le griffais, moi aussi. Tu comprendras ça plus tard. Ou peut-être pas. Tu es si bizarre. Si ta sœur était née, je me sentirais moins seule. Elle me donnerait la force de continuer. Mais toi, ma pauvre petite, avec ta tête fêlée, Qu'est-ce que tu pourrais y faire, hein? Ce n'est pas ta faute, va. » Posant un bras sur les épaules de sa fille, elle l'attira contre elle et se mit à répéter d'une voix lointaine. Pauvre chose, pauvre chose. Comme si elle s'adressait à un chat malade qu'on va bientôt faire piquer. Fran se laissa faire sans rien éprouver. Elle était comme morte en dedans. Les bêtes empaillées doivent éprouver ça, se dit-elle avec fatalisme. À force de patience, elle réussit à se libérer et regagna sa chambre. Là, elle se glissa dans son lit sans éteindre la lumière et garda les yeux grands ouverts, fixés sur la tapisserie. La bâtisse se recroquevillait, tel un chien plongé dans un sommeil nerveux, quand un cri perçant résonna dans les ténèbres. Franny bondit, dévala l'escalier pour s'immobiliser au chevet de Jeannette. Celle-ci se tenait adossée au montant du lit, le regard fixe, des mèches collées aux joues par la sueur du cauchemar. « C'était un rêve atroce, bredouilla-t-elle. Je crois que ton père a essayé de me dire quelque chose par-delà la mort. Je t'ai vu. Tu travaillais. Tu lavais le carrelage d'une coopérative laitière. Il faisait froid et tu portais des bottes de plastique rouge, terriblement laides. Tu avais l'air d'une anormale. Tes yeux, ta figure, ta bouche, tu avais enlaidi. Tu ressemblais à une truie. C'est à ce moment-là que j'ai poussé ce cri. Mon Dieu, ces bottes rouges, si affreuses !»« Ce n'est rien, » dit Franny consignante. « Tu avais bu. »« Mais non, » gémit Jeannette. « Je sais que c'est un présage. Tu n'as jamais été normale. Mais maintenant que ton père n'est plus là, je serai incapable de veiller sur toi. Ça demande trop de travail. Je ne suis pas une femme forte. Il faudra que je te place dans une institution où l'on s'occupera de toi. Quand tu seras à l'abri, je me remarierai. Il le faut bien, sinon qui s'occupera du magasin? Voilà ce que ton père essayait de me dire. Tu ne m'en veux pas, j'espère. » Franny se leva en silence, regagna son lit et s'endormit sans avoir éteint sa lampe de chevet. Au cours de la nuit, sa sœur se manifesta à voix haute et claire. « Maintenant que tu as assassiné le père, nous sommes fichus, » bourdonna-t-elle. « Maman va te mettre dans un asile où on te bourrera de médicaments qui m'empêcheront de grandir. Jamais plus je ne pourrai sortir de ta tête. J'y resterai enfermée jusqu'à ce que je commence à pourrir. Ça fera comme un petit fruit noir au milieu de ton cerveau. Un fruit qui finira par te tuer. » « Je n'ai pas tué le père, » protesta Fran. « C'est ce que tu dis, » gémit sa sœur. « Moi, je sais à quoi m'en tenir. Ce sont tes manigances de sorcières qui lui ont fait la peau. Au début, je n'y croyais pas, mais elles ont fini par fonctionner. » Le lendemain, alors qu'elle essayait de mettre de l'ordre dans sa chambre, Fran retrouva les photos de jeunesse de George Monroe. Elle se fit la réflexion que Jeannette serait probablement heureuse de les récupérer. Quand elle descendit, sa mère n'était toujours pas habillée. Elle avait enfilé, par-dessus sa chemise de nuit, la veste de son mari et, les yeux dans le vague, rêvassait devant un café refroidi. Franny se laissa tomber sur une chaise et attrapa la cafetière. Elle n'était même plus tiède. Depuis combien de temps Jeannette était-elle ainsi figée? Tiens, dit-elle dans l'espoir de provoquer une réaction. « J'ai retrouvé des photos de papa quand il était jeune. » Tout à coup, alors qu'elle posait la boîte sur la table, elle se sentit fusillée par un éclair d'angoisse. « Les photos. Les photos. La photo. Comment avait-elle pu oublier ?» C'était de cette même boîte en carton qu'elle avait sorti le cliché représentant son père en tenue militaire. Ce cliché qu'elle avait apporté en offrande à la mère Shazam. L'image d'un porte-plume au bec rouillé envahit son esprit, et elle se revit piquant à coups redoublés l'entrejambe de George Monroe. Ça s'était produit lors de la rédaction du pacte satanique. Elle avait plongé la plume au fond de l'encrier pour percer la photo du bout de la minuscule langue de fer bifide. Combien de fois avait-elle répété ce geste? Elle ne s'en souvenait plus. Elle se revoyait harcelant, lacérant le cliché, le criblant de mille piqûres. Puis, il lui sembla entendre la voix d'un pompier, à moins que ce ne fût celle d'un badaud racontant comment son père avait été attaqué aux testicules par une nuée d'insectes fous. La Shazam l'avait dit. Les esprits n'ignoraient aucune des intentions secrètes de ceux qui quémandaient leur aide. Franny se rappela le soir où elle avait pensé. Crève donc. Ainsi, sa sœur avait vu juste. Elle avait indirectement tué son père puisqu'elle en avait soufflé l'ordre aux forces invisibles. Sa main était toujours serrée sur la boîte aux photos, mais ses doigts ne lui obéissaient plus. Son corps avait pris la densité du marbre. En face d'elle, Jeannette ne voyait rien, ne se rendait compte de rien. Un horrible bourdonnement emplit les oreilles de Fran. Sa sœur lui parlait, mais ses mots demeuraient incompréhensibles. Fran gémit. Le bruit lancinant l'emplissait tout entière, comme si un essaim de guêpes se cognait aux parois de son crâne. Au cours des heures qui suivirent, son malaise s'aggrava. Jeannette divaguait à n'en plus finir sur son inaptitude à reprendre en main le magasin. Franny essaya de la fuir, mais toujours sa mère la retrouvait, cachée au fond du jardin, dans le garage, ou même dans la voiture, et reprenait ses lamentations. Fran n'osait pas sortir de la maison. Les forces avec lesquelles elle avait joué l'attendaient sûrement au détour d'un chemin pour lui demander des comptes. Elle devinait sans peine le contenu de leur doléance. Le contrat n'avait-il pas été respecté? Dans ce cas, pourquoi Franny ne les remerciait-elle pas en leur offrant un agréable sacrifice? Jeannette Monroe, par exemple. Elle ne dessoule plus, lui diraient les esprits. Il te sera donc facile de la pousser dans l'escalier de la cave. Nous n'en demandons pas plus. Ta dette réglée, nous te ficherons la paix. C'est la règle. Pourquoi t'accrocher à cette femelle pleurnicheuse qui veut t'enfermer chez les fous? Pousse-la du haut des marches. C'est facile. Un bon coup entre les omoplates et elle se cassera en mille morceaux. Les os d'humain, c'est fragile. Personne ne songera à t'accuser. Les deux femmes restèrent isolées pendant 6 jours. De temps à autre, Jeannette s'étonnait de ne recevoir aucune visite de sympathie. Mais elle se dépêchait de conclure que ses voisins étaient sans doute trop intimidés pour franchir le seuil de la maison. Un matin, cependant, un bref coup de sonnette retentit. Franny alla ouvrir. Elle se retrouva face au facteur qui parut étrangement mal à l'aise. « C'est ta mère que je viens voir, » laissa-t-il tomber, les yeux obstinément baissés sur l'enveloppe qu'il tenait à l'envers. « Eh bien, je lui donnerai son courrier, » répliqua l'adolescente en tendant la main. L'homme s'exécuta de mauvaise grâce. Quand ses doigts effleurèrent ceux de Fanny, il se troubla et bredouilla un au revoir étouffé avant de courir se réfugier à l'intérieur de la voiture de la poste. Tout d'abord, Jeannette considéra l'enveloppe sans se décider à l'ouvrir. En fait, c'était le commis du magasin qui s'étonnait d'une si longue absence. Après tout, écrivait-il, il n'était pas le patron, et les fournisseurs refusaient de prendre ses commandes en prétendant que sa signature n'avait aucune valeur. Il ne savait plus que faire. Il ne voulait prendre aucune initiative de peur de se les voir ensuite reprocher. Franny s'éloigna en haussant les épaules. Elle avait faim. Depuis l'enterrement, ni sa mère ni elle ne cuisinaient plus. Elle se contentait de croquer de temps à autre 2 biscottes avec un morceau de fromage ou du chocolat. Les provisions s'épuisaient. Il n'y avait plus ni laitage ni fruits. Il restait des légumes fanés, mais Franny ne se sentait aucun appétit pour une salade composée de feuilles moribondes. Elle avait envie d'une débauche de sucreries, d'un festin de friandises. Hélas, ne pouvant téléphoner sa commande, il lui fallait quitter la maison, le temps de se rendre chez les commerçants du village. Elle n'hésita pas longtemps. Les forces des ténèbres ne se manifesteraient probablement pas en présence d'humains non initiés. En fait, si elle voulait éviter tout contact avec les esprits, elle devrait s'abstenir de retourner dans les bois. Ces lieux de rencontres privilégiés où les esprits se frottent aux vivants, jusqu'à les écorcher vifs. À peu près rassurée, elle prit le chemin du purgatory. Pour plus de sécurité, Elle avait choisi une heure où les ménagères faisaient leurs achats, emplissant les rues d'un semblant d'animation. En chemin, elle croisa trois femmes qui traînaient des paniers remplis. Aucune ne lui adressa la parole. Franny eut l'impression que l'une d'elles avait marmonné une insulte en la dévisageant. Elle n'eut pas le loisir d'y réfléchir, car une fillette à vélo dérapa sur les graviers et s'étala au milieu de la chaussée. Franny se précipita pour redresser l'enfant, qui se contentait de hurler sans même essayer de bouger. Elle allait la saisir aux aisselles pour la remettre debout, quand une voix furieuse éclata tout près.
« Laisse-la par terre. Ne pose pas tes sales pattes sur elle. »
« Mais je voulais l'aider, » balbutia Fran, éberluée. « N'y touche pas, je te dis, » vitupéra la paysanne. « Je préférerais qu'elle se fasse écraser plutôt que devenir une vicieuse dans ton genre. » Un murmure parcourut le cercle des témoins. Franny ne percevait plus les badauds qu'à travers un brouillard annonciateur de syncope. Ses nerfs tendus par les événements des derniers jours n'étaient plus en mesure d'affronter la moindre agression. Au milieu de la foule, Peter Punky ricanait, orchestrant les gloussements des gamins dont il était le chef. « Attention, voilà la Franny qui cherche le taureau » hurla-t-il quand son regard croisa celui de l'adolescente. Les femmes présentes entreprirent de chasser les galopins. « À fréquenter une fille pareille, vous allez devenir pire qu'elle. « Allez, partez !» grogna une matrone à la trogne courroucée. Les ménagères s'écartèrent de Franz sans lui adresser un mot. Les garçons, eux, se cachèrent derrière un camion. Dès que les passants se furent éloignés, ils revinrent à la charge. Franny, Reddy, les attendait. « Pas trop près, les gars, elle va vous les vider !» ironisa Peter de sa voix stridente au tri insupportable. « En chaleur !» « En chaleur !» scandèrent les gosses en faisant rebondir les vélos entre leurs jambes. Le patron du bar sortit à ce moment de son établissement, se dirigea vers l'un des garçons qu'il gratifia d'une retentissante paire de claques. Aussitôt, la bande s'éparpilla à grands coups de pédale. L'homme se tenait tout près de Franny. Il regarda furtivement alentour avant de murmurer d'un air canaille. « Tu vois, tu n'as pas que des ennemis, petite. » Mais pense que la mienne est sûrement moins rugueuse. » Franny partit à reculons, fit demi-tour, avant de se mettre à pédaler en direction de la sortie du village, l'esprit paralysé par ce qu'elle venait d'entendre. Moins rugueuse. Moins rugueuse que quoi ? Soudain, son œil enregistra le mot « Franny » gribouillé à la craie sur le mur de la laiterie. Elle parcourut une dizaine de mètres avant de mettre pied à terre. Le graffiti s'étalait sur toute la longueur du mur. La Franny, elle les aime grosses et feuillues. L'adolescente scruta la route d'un air affolé, mais personne n'avait assisté à sa découverte. Aucun ricanement ne se fit entendre. Les larmes aux yeux, elle tâtonna pour refermer la grille du jardin. Plus tard, elle raconta à Jeannette une version expurgée de l'aventure. Le facteur d'abord, puis les insultes de la femme, les gosses enfin. Il fallait ajouter à cet ensemble les graffitis dont elle se garda bien de révéler la teneur. Sa mère fronça les sourcils et hocha la tête, les traits empreints d'incrédulité. « Ils étaient tous si gentils à l'enterrement. Tu dois te tromper. Ce sont des gens frustres. Ils n'ont pas la manière, bien sûr. Je te connais. Tu es toujours là à te hérisser pour un rien. C'est ça qui agaçait ton père. Il ne savait pas comment te prendre. » C'est ma faute aussi. Je n'ai jamais été capable de lui faire un fils. Ce qu'il faut à un père, c'est un fils. Quelqu'un qui parle la même langue que lui. Exaspérée, Franny renonça à toute discussion. Dans le garage, elle récupéra les jumelles de George Monroe et passa le reste de la journée à scruter les alentours depuis la fenêtre de sa chambre. La Shazam avait regagné son antre. Une fumée grise s'élevait de la cheminée que Franny surveilla toute la journée, persuadée que des visages démoniaques n'allaient pas tarder à se former au cœur des volutes. Des faces grimaçantes qui lui crieraient, elles aussi, des injures. Rien de notable ne se produisit jusqu'au soir. Les allées et venues des paysans et des enfants étaient nombreuses, mais ne présentaient aucun caractère suspect. Fran décida de poursuivre le guet durant la nuit.